Radio France Internationale, 13h30 à Paris, il est midi et demi en temps universel. Une édition d'Afrique Midi présentée par Nicolas Sûr. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nemo, en pise, bonjour à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'en prend à la France dans un discours à la Nation. Il qualifie aussi d'imposteur envoyé par Paris l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, arrêté mi-novembre à Alger. Au Mali, Issa Kaoudjim a été condamné ce matin à 2 ans de prison, dont un ferme. Figure politico-médiatique, il était poursuivi pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger et injure par le biais de systèmes d'information. Et puis la mort de la chorégraphe et danseuse sud-africaine Dada Masilo. Elle avait 39 ans, elle était mondialement connue pour ses réinterprétations d'œuvres du répertoire classique comme le Lac des Cygnes ou Carmen. En Algérie, un discours à la Nation particulièrement virulent du président Tebboune. Face aux deux chambres du Parlement, le chef d'État s'en est vivement pris hier à la France. Alors que les relations entre les deux pays sont au plus bas, il a listé, Ouda Ibrahim, toute une série de contentieux avec l'ancienne puissance coloniale.
Les Français doivent admettre qu'ils ont tué et massacré les Algériens, a souligné le président Tebboune en revenant sur la période coloniale et la guerre d'indépendance algérienne. Le chef de l'État a aussi appelé la France à nettoyer les sites des essais nucléaires contaminés dans le sud du pays. « Vous êtes devenu une puissance nucléaire », a-t-il rappelé, « et vous nous avez laissé les maladies, venez nettoyer ». Il précise que son pays ne réclame pas d'indemnisation, mais la dignité de nos ancêtres et de nos citoyens, a-t-il précisé. À ceux qui, aujourd'hui en France, vantent les bienfaits de la colonisation, le dirigeant algérien répond que celle-ci a laissé l'Algérie en ruine. 90% d'Algériens étaient analphabètes à l'indépendance, a-t-il ajouté. Évoquant la question sahraoui, il a affirmé que l'idée d'autonomie est une idée française et non marocaine, soulignant que les options de règlement qu'il propose pour la question du Sahara occidental sont des choix entre le mal et le pire, alors qu'il s'agit d'une question de décolonisation et d'autodétermination.
Et puis pour la première fois, le président Tebboune est revenu sur l'arrestation à la mi-novembre à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal.
Oui, il le qualifie d'imposteur au père inconnu. Il dit que Sansal est envoyé par la France pour affirmer que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. L'écrivain est incarcéré depuis novembre pour atteinte à la sûreté de l'État.
Au Mali, Issa Kaoudjim a été condamné ce matin à 2 ans de prison, dont un ferme. C'est ce que RFI a appris auprès de son entourage et de sources judiciaires. Figure politico-médiatique, Issa Kaoudjim était poursuivi pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger et injure par le biais de systèmes d'information. Sur le plateau de Joliba TV, il avait mis en doute la crédibilité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina voisin. La chaîne malienne, après s'être vue retirer sa licence, a finalement été suspendue pour 6 mois. Quant à Issa Kaoudjim, incarcéré depuis le 13 novembre, il devra donc encore purger 10 mois et demi de prison. Le Mali, où le président du parti d'opposition NVPM, Nouvelle Vision pour le Mali, a été enlevé samedi à Bamako. Sa formation affirme que Ibrahim Nabi Togola a été arrêté par des individus armés non identifiés au cœur de la capitale, alors qu'il s'apprêtait à lancer une nouvelle coalition d'opposition. David Bachet, que s'est-il passé ?
Il n'est pas encore 10h, Ibrahim Nabi Togola est dans la cour du bâtiment où il doit tenir une conférence de presse lorsque 2 hommes en civil surgissent et lui demandent de le suivre. Ibrahim Nabi Togola refuse, puis, selon le récit de plusieurs de ses proches, s'ensuit une altercation au cours de laquelle les 2 hommes assurent être des gendarmes et mettent violemment le dirigeant politique à terre. Blessé au visage, Ibrahim Nabi Togola est menotté et embarqué à bord d'un véhicule 4x4 noir aux vitres teintées. Ce matin, son entourage, qui a fait la tournée des commissariats et sollicité les services de police et de gendarmerie, n'a toujours aucune information sur son lieu de détention. Plusieurs camarades politiques d'Ibrahim Nabi Togola s'inquiètent d'un mode d'action s'apparentant plutôt à celui de la sécurité d'État.
Ce politicien président du parti Nouvelle Vision pour le Mali est très engagé dans la lutte pour le rétablissement de la démocratie.
Oui, membre de la coalition politique Djigui-Hakoura, de l'appel du 20 février, de la synergie d'action pour le Mali et signataire de la déclaration du 31 mars pour le retour à l'ordre constitutionnel. traditionnel. Ibrahim Nabi Togola était sur le point de lancer une nouvelle plateforme d'opposition. La conférence de presse prévue samedi matin, au cours de laquelle il devait annoncer la création de ce nouveau mouvement et en prendre la présidence, venait d'être reportée lorsqu'il a été enlevé. « On est en dictature », commente l'un de ses camarades politiques, lui-même en exil. « Au Mali, soit tu soutiens les militaires, soit tu te tais. Nous sommes très inquiets de ce qui pourrait lui arriver. »
Au Burkina Faso, les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté ce matin un projet de loi amnistiant les militaires condamnés dans le cadre du coup d'État manqué de septembre 2015. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pourra accorder l'amnistie à tous les militaires condamnés dans cette affaire, sous certaines conditions, et notamment si ces derniers acceptent de participer à la lutte contre le terrorisme. Paul Biya sera-t-il candidat ou pas à la présidentielle prévue au Cameroun en 2025 ? En interne, au sein de son parti, le RDPC, en tout cas, le débat est sans objet. C'est en substance ce qu'a déclaré hier Amélie Tulé, un haut cadre du parti, le ministre d'État Jacques Famendongo.
Oui, dans une démonstration écrite en 7 points, usant d'un vocabulaire érudit avec des mots comme irréfragable, Nicolas, qui se dit d'un argument qu'on ne peut contredire. Ces arguments qu'on ne peut contredire et qui autorisent le président Biya à se représenter, selon Jacques Famendongo, c'est d'abord la Constitution, ensuite les textes du parti. Ils sont clairs, le président du RDPC, donc Paul Biya, et le candidat du parti à l'élection présidentielle. Enfin, la base militante qui a renouvelé son appel en faveur de cette candidature le 6 novembre dernier, date anniversaire de sa première prestation de serment il y a 42 ans. Alors à qui répond donc Jacques Famendongo dans cette démonstration écrite ? Aux voix qui expriment au Cameroun le souhait de voir le président passer la main, comme l'archevêque de Douala, Samuel Kleda, qui a estimé sur RFI il y a quelques jours qu'une nouvelle candidature de Paul Biya n'était pas réaliste, du fait notamment de son âge, bientôt 92 ans. Mais pour Jacques Famendongo, tout cela relève de l'opinion, pas de la raison. Toutes les bases juridiques et objectives sont là, dit-il. Seul reste donc le libre arbitre du chef de l'État camerounais. En creux, Nicolas comprend que sauf officialisation d'une décision contraire, Paul Biya sera candidat pour un 8e mandat.
Au Tchad, c'est l'une des dernières étapes pour mettre un terme à la transition ouverte par la mort d'Idriss Déby. Des élections législatives et locales étaient organisées hier, un an après le référendum constitutionnel et l'élection présidentielle. La participation semble être restée mesurée, même si pour l'heure, l'ANJ, l'autorité chargée d'organiser les scrutins, n'a pas communiqué de taux officiel. Anjamena Nadia Ben Mafoud.
C'est dans un contexte d'appel au boycott de nombreux partis d'opposition, notamment des transformateurs de succès Masra, que les Tchadiens se sont rendus aux urnes hier. Le scrutin dénoncé par une majorité d'opposants comme gagné d'avance par le MPS, le parti au pouvoir, n'aura pas soulevé les foules comme les précédents, explique le rapporteur général de l'Observatoire des associations pour les processus électoraux au Tchad, Gombo Breyouzibé. Globalement, le vote s'est déroulé dans le calme, pas d'incident majeur signalé à ce stade. Les résultats définitifs doivent être annoncés le 15 janvier par l'Agence nationale de gestion des élections. En attendant, reste encore à éclaircir les raisons précises de ce manque d'engouement des électeurs. Les prochaines élections seront les sénatoriales en mars 2025, des élections indirectes cette fois qui concerneront les grands électeurs élus ce week-end. Nadia Ben Mafoud, N'Djamena, RFI.
Au Gabon, le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, annonce le lancement d'une opération de révision des listes électorales du 2 au 31 janvier. Yves-Laurent Gomain, il s'agit de préparer les élections générales présidentielles, législatives et locales qui mettront fin à la transition entamée au lendemain du coup d'État.
La révision des listes électorales concerne en priorité les jeunes qui viennent avoir 18 ans et ceux qui souhaitent changer de centre de vote. Elle doit également permettre de radier les personnes décédées et celles qui ont perdu leurs droits civiques. Les prisonniers en détention préventive seront aussi recensés pour leur permettre de voter. 158 commissions se chargeront des inscriptions dans le pays contre 23 pour les Gabonais de l'étranger. L'annonce de cette révision est intervenue un jour après la toute première rencontre entre le président de la transition Brice Clotaire Oligingema et Alain-Claude Biléminzé, dernier premier ministre d'Ali Bongo. Ce dernier plaide pour la refonte totale du fichier électoral. Refaire à zéro cette liste donnerait l'impression que les militaires veulent se tailler leur propre liste, estime Ange Kevenzigou, leader du Parti pour le changement. Le Parti démocratique gabonais, chassé du pouvoir par les militaires, dit soutenir cette nouvelle révision du fichier électoral puisqu'il s'agit d'une opération classique prévue par la loi.
En République démocratique du Congo, l'Organisation de défense des droits de l'homme, la Voix des Sans-Voix, rejette tout dialogue direct entre Kinshasa et la rébellion du M23. C'est ce qu'a exigé le président rwandais Paul Kagame lors du sommet avorté de Luanda. Kigali en fait un préalable à toute discussion avec la RDC. Eh bien, pour Rostin Manteca, le directeur de la VSV, il n'en est pas question. Pas question au regard des crimes imputés aux rebelles du M23. Mais c'est aussi, dit-il, inacceptable de la part du Rwanda.
On se demande comment un État peut demander à un autre État souverain de dialoguer avec un mouvement armé soutenu par cet État. Cela vraiment est inadmissible, inacceptable. Sinon, il faut se demander, mais pourquoi le Rwanda demande à la République démocratique du Congo de dialoguer avec un mouvement rebelle alors que lui-même, le Rwanda, est incapable de dialoguer avec ses opposants? Voilà la grande question. Et puis le dialogue pour nous en République démocratique du Congo est très mal perçu parce que qui dit dialogue avec le M23, cela donc va impliquer les processus de brassage, mixage, comme on l'a connu par le passé.
Le brassage, vous voulez dire l'intégration en fait de certains rebelles au sein de l'armée.
Tout à fait, comme on l'a connu par le passé et qui a comme conséquence malheureuse l'infiltration de forces armées de la République démocratique du Congo et des services de sécurité dans le seul but de les affaiblir au profit des États voisins. Et ça, c'est inacceptable.
Rostin Manteca, adjoint par Florence Maurice. La crise post-électorale au Mozambique. Les violences ont flambé depuis que la Cour suprême a validé lundi dernier la victoire du Frelimo au pouvoir lors des élections du 9 octobre. Conséquence, plus de 2500 familles ont fui vers le Malawi voisin. Elles sont arrivées dans le district de Nsanje, dans le sud du pays, comme en témoigne Dominique Mwandira. Il est haut fonctionnaire à Nsanje.
Depuis l'annonce lundi 23 décembre de la confirmation de la victoire du parti au pouvoir au Mozambique, les tensions politiques se sont aggravées. Des voisins se sont retournés les uns contre les autres, déclenchant une vague de violence qui a poussé des milliers de familles à fuir, selon les témoignages recueillis. À Sanje, dans le sud du Malawi, environ 2500 familles ont déjà trouvé refuge. Ces réfugiés rapportent que leurs maisons ont été incendiées, leurs commerces pillés. Alors pour leur venir en aide, des centres temporaires ont été aménagés dans les écoles et des structures communautaires. Le département de gestion des catastrophes a distribué des sacs de farine et des haricots, tandis que l'UNHCR a commencé dès samedi à fournir des aides supplémentaires. Sur place, des équipes composées des autorités locales et de partenaires internationaux procèdent à des vérifications dans les camps afin de répondre aux besoins les plus urgents et d'évaluer le statut des réfugiés, car nous nous attendons effectivement à ce que les chiffres augmentent, car les réfugiés continuent d'arriver.
Propos recueillis par Christina Okello.
Afrique Midi sur RFI.
13h43 à Paris, dans la deuxième partie d'Afrique Midi, nous reviendrons sur la mort de l'ancien président américain Jimmy Carter. Un seul mandat, mais une diplomatie active à destination de l'Afrique. Et puis une autre disparition dans l'actualité, celle de la chorégraphe et danseuse sud-africaine Dada Massilo. Elle s'est éteinte hier à l'âge de 39 ans. On a appris hier soir la mort de l'ancien président américain Jimmy Carter. Il avait 100 ans, locataire de la Maison Blanche entre 1977 et 1981. Il fut notamment l'artisan des accords de Camp David qui avaient abouti à la signature du traité de paix entre Israël et l'Égypte. Paul Lorgerie, il eut également, même si on s'en souvient moins, une diplomatie active à destination du continent africain.
Oui, Nicolas, et Jimmy Carter aimait d'ailleurs dire que lors de son mandat, il avait fourni plus d'efforts à pacifier l'Afrique australe que le Moyen-Orient. C'est en tout cas ce que rapporte la professeure d'histoire Nancy Mitchell, autrice d'un ouvrage intitulé « Jimmy Carter et l'Afrique, race et guerre froide ». Un fait d'armes souvent omis, son implication dans le dossier rhodésien, en pleine guerre froide. Refusant de soutenir un gouvernement raciste, mais ne souhaitant pas non plus que le bloc de l'Est s'empare du sud de l'Afrique, ses efforts ont mené au pourparlers de Lancaster House, qui ont ensuite débouché sur les premières élections libres d'un nouvel État, le Zimbabwe. Lui, qui avait été témoin de la ségrégation dans le sud des États-Unis d'où il est natif, pensait que les luttes du continent africain et de son pays étaient étroitement liées. Il fut d'ailleurs le premier président américain à fouler le sol subsaharien en 1978 au Libéria, pays colonisé en 1822 par l'American Colonization Society. Il y retournera des années plus tard dans le cadre de sa fondation, le Carter Center, qui a notamment mené des campagnes de lutte contre des maladies tropicales comme le ver de Guinée et qui s'est également donné comme mission la surveillance de certaines élections.
Elle était mondialement connue pour ses réinterprétations d'œuvres du répertoire classique comme Le Lac des Cygnes ou Carmen. La chorégraphe et danseuse sud-africaine Dada Masilo est décédée brutalement hier à l'âge de 39 ans. Isabelle Chenu, elle aura fait souffler un vent de fraîcheur et de renouveau sur la danse en y introduisant les rythmes de l'Afrique.
Oui, Dada Masilo était une danseuse magnétique, crâne rasé, énergie survoltée, devenue chorégraphe pour pouvoir raconter des histoires d'aujourd'hui avec une intelligence qui lui a ouvert les portes des plus grandes scènes du monde. Née dans le township de Soweto en Afrique du Sud, formée à la danse dès l'âge de 11 ans, elle s'est fait connaître en s'emparant du répertoire du ballet classique occidental dont elle aimait la féerie, mais en le revisitant avec audace. Succès immédiat pour son Lac des Cygnes, sa Carmen pleine d'énergie sexuelle, son adaptation de Roméo et Juliette ou sa Gisèle devenue une héroïne féministe. Dada Masilo bouleverse les codes, mêle la gestuelle classique avec les rythmes africains comme la danse Zoulou, fait fusionner la mélodie de Tchaïkovski avec des compositeurs de musique minimaliste. Sur scène, elle alterne les solos sensuels et les chorégraphies d'ensemble explosives. Dans son Lac des Cygnes, le prince est gay. Les pieds nus frappent le sol comme dans le gumboot, cette danse sud-africaine percussive. Pas de chaussons roses, ni de pointes, mais des tutus blancs pour des danseurs noirs, hommes ou femmes. Des you-you rythment la danse. Dada Masilo, par ses récits et ses spectacles enchantés, s'employait à lever le voile sur les tabous sociaux de son pays, dénonçant l'oppression des femmes, l'homophobie et les ravages du sida en Afrique du Sud.
La saison sèche bat son plein en Afrique de l'Ouest avec un ciel voilé par la poussière du désert ramenée par l'Harmattan. Dans le centre et le sud de la Côte d'Ivoire, la qualité de l'air se dégrade nettement. À Abidjan, la concentration en particules fines est en ce moment jusqu'à 12 fois supérieure aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un risque pour la santé. Reportage Benoît Almeras.
Ils sont des dizaines autour de ce carrefour de Cocody, petits commerçants, chauffeurs, policiers. Annette, tous, cette quinquagénaire balaie la chaussée.
Il y a le soleil, il y a poussière, ça nous fatigue même.
Là, en ce moment, avec l'Harmattan, c'est plus dur.
C'est trop dur même.
Annette porte un masque en tissu. L'indice de qualité de l'air est en ce moment deux fois pire qu'en temps normal. Le docteur Sylvain Niamien surveille les particules fines en temps réel.
Depuis deux semaines, on observe une très forte concentration qui part de 8 heures jusqu'à descendre vers 22 heures, 23 heures. Un maintien permanent de ce niveau de concentration-là.
Le risque, c'est de contracter ou d'aggraver des maladies respiratoires. Alors ce spécialiste des sciences atmosphériques conseille d'éviter les zones de fort trafic.
Cela permet dans un premier temps de diminuer sa surexposition. À défaut de pouvoir le faire, portons juste un masque communément appelé en Côte d'Ivoire cache-nez. Ça nous permettra de pouvoir filtrer une bonne partie des particules.
Mais pour Jenaba, une autre balayeuse, il est impossible d'arrêter le travail.
On ne peut pas arrêter, si on n'a pas les moyens, on ne peut pas arrêter. On se débrouille pour nourrir la famille, les enfants. Si j'arrête là, il va faire comment ?
Selon les estimations, près de 400 000 Africains meurent chaque année en lien avec la pollution de l'air extérieur. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Il est midi 48 à Abidjan. 13h48 à Paris, Nemo en pisse, les grands titres de ce lundi 30 décembre 2024.
Et les réactions continuent de pleuvoir à la mi-journée après l'annonce de la mort hier de Jimmy Carter, le 39e président des États-Unis. Il s'est éteint hier soir, donc à l'âge de 100 ans. Dernière réaction en date, celle de Xi Jinping, le président chinois qui se dit profondément attristé et qui souligne que la relation sino-américaine est l'une des plus importantes au monde. L'actuel président américain Joe Biden a lui décrété un jour de deuil national. Il rend hommage à un homme de principe, de foi et d'humilité. Les États-Unis qui lancent par ailleurs un programme d'aide à la sécurité de 2,5 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine. Washington qui s'efforce de soutenir Kiev à une vingtaine de jours du retour de Donald Trump
à la Maison-Blanche. Ce sera le 20 janvier 2025. L'Ukraine et son chef de la diplomatie en visite à Damas ce lundi. Andrei Sibiga a été reçu par le nouveau dirigeant syrien Abou Mohamed al-Joulani. La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé l'envoi à Damas de son premier chargement d'aide alimentaire de 500 tonnes de farine de blé. Et puis Téhéran qui confirme ce lundi l'arrestation dans la capitale iranienne le 19 décembre dernier de la journaliste italienne Cecilia Sala pour avoir, je cite, enfreint les lois lors d'un séjour professionnel avec un visa journalistique. Notre invité ce midi, Christian Eboulé, journaliste à TV5 Monde et spécialiste de l'histoire des tirailleurs sénégalais.
Oui, aux éditions Les Lettres Mouchetées, il vient de publier Le Testament de Charles, un livre consacré au capitaine franco-gabonais Charles Nchoréré, abattu par les Allemands en 1940. Christian Eboulé répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Christian Eboulé, bonjour.
Bonjour.
Alors Charles Nchoréré, c'était un officier français d'origine gabonaise qui avait multiplié les faits d'armes depuis la guerre de 1914. Pour vous, c'est un héros français ou un héros gabonais ?
Pour moi, c'est un héros tout court parce qu'il a défendu les valeurs d'humanité et de fraternité sur un terrain d'opération, la Seconde Guerre mondiale, dans lequel il avait été amené comme capitaine des troupes coloniales françaises. C'était un humaniste en uniforme, de mon point de vue, et son combat lors de cette guerre mondiale en 1940, c'était un combat pour cet universalisme que la France promouvait et défendait pendant la période coloniale. Donc, c'était un homme qui ne se battait pas uniquement pour la France, il se battait pour l'idée qu'il se faisait de la liberté.
Et après avoir été capturé par les Allemands, il a donc été séparé des autres officiers de l'armée française et abattu d'une balle dans la tête. Est-ce à dire qu'il a été tué parce qu'il était noir ?
Il a effectivement été tué parce qu'il était noir, parce qu'il a protesté contre cette ségrégation. Il a aussi protesté contre les massacres qui étaient pratiqués par certaines unités allemandes, certaines unités, pas toutes, les unités nazies notamment, massacraient de manière systématique les tirailleurs sénégalais. Charles Nchoréré s'est opposé à ces deux pratiques et il y a laissé sa vie.
Depuis quelques jours, un ministre sénégalais, cher Oumar Diagne, crée la polémique sur les tirailleurs sénégalais. Il affirme « Leur bataillon a été créé par le colon, ce sont des traîtres qui se sont battus contre leurs frères dans leur pays. Pour moi, ce ne sont pas des héros, en tout cas pas des héros à nous ».
Alors, Cheikh Oumar Diagne n'est pas n'importe qui, c'est un ministre conseiller à la présidence. Alors, ce sont des propos d'une très grande violence, car dans son interview, il affirme une litanie de griefs sans fondement qui flairent, à mon avis, la manipulation et le populisme. Cheikh Oumar Diagne affirme pêle-mêle que les tirailleurs battaient les Sénégalais, s'en prenaient aux villageois, attaquaient les résistants, tuaient les marabouts et les maîtres coraniques. Autre exemple, il affirme que la seule préoccupation des tirailleurs sénégalais était pécuniaire. C'était l'argent leur préoccupation. Et pour preuve, il cite les massacres de Tiaroy. Autrement dit, à Tiaroy, tous ceux qui ont été massacrés s'étaient rebellés par cupidité. Ici, on constate que notre ministre conseiller ignore toutes les difficultés des tirailleurs et surtout leurs difficiles conditions de vie contre lesquelles luttait notamment le capitaine Charles Nchoréré, qui était la voix des tirailleurs à Tiaroy. Ils se battaient pour leur dû et pour leur dignité. C'était les deux. Les deux étaient indissociables. Ils avaient fait la guerre, ils étaient retournés, on leur avait promis cet argent, il était normal qu'ils le réclament.
Est-ce que tout est faux dans ce que dit cher Oumar Diagne, le ministre sénégalais ? Un historien sénégalais, Mamadou Fall, a ce mot. Il y a eu des moments où la France a fait faire aux tirailleurs une sale besogne. Au Cameroun, en septembre 1958, ce sont des troupes coloniales françaises qui ont abattu le dirigeant indépendantiste Ruben Niobé, notamment des troupes d'origine tchadienne. Est-ce que cette sale besogne, pour reprendre l'expression de Mamadou Fall, n'entache pas la mémoire des tirailleurs sénégalais ?
Je crois que les tirailleurs sénégalais ont le dos large. Ils étaient des supplétifs. Pour la plupart, ce sont des hommes qui ont vécu sous la domination coloniale, qui ont essayé de s'en sortir et qui, par différents mécanismes, étaient parfois contraints. Je rappelle juste une chose, le service militaire était obligatoire durant l'entre-deux-guerres. L'ancien président Sangoulé Lamizana, c'est de cette manière qu'il a été incorporé dans les troupes coloniales et les moyens d'y échapper étaient vraiment extrêmement limités.
Voulez-vous dire que certains soldats de l'armée française sont devenus ensuite de grands patriotes dans leur pays nouvellement indépendant? On pense à Sangoulé Lamizana en Haute-Volta, Seni Kounché au Niger, Félix Maloum au Tchad et bien sûr à Ahmed Ben Bella en Algérie.
Ils ne sont pas seulement devenus les premiers cadres de l'indépendance. Je pense notamment à un Sénégalais célèbre, Lamine Senghor, décédé prématurément malheureusement en 1927. Lamine Senghor est l'un des tout premiers indépendantistes et c'est un ancien tirailleur sénégalais qui a été malheureusement gazé pendant la Grande Guerre 14-18. Il était un indépendantiste affirmé.
Christian Éboulé, merci.
Christian Éboulé au micro de Christophe Boisbouvier. C'est le nouveau phénomène du rap camerounais. Uzi Freya sort son nouvel album. Ça s'appelle Babies Don't Cry. José Marinho l'a écouté.
My enemies are getting some treasure. Actually, may say to have a bit of press. I'ma fix my actually, I'm not impressed. But I heard in the east side, I think put me less.
Le flow féroce d'Uzi Freya fait des étincelles sur cet album de 12 titres dansants et percutants. En à peine 5 ans, la Camerounaise s'est imposée comme une valeur sûre du hip-hop africain que tous les grands festivals français s'arrachent. Love this type of bitch who give everything but always just. Derrière le nom de scène d'Uzi Freya se cache Kelly Rose, née au Cameroun dans une famille de musiciens. Elle a été élevée dans le gospel et découvre Eminem à l'adolescence. Arrivée en France, c'est dans les rues de Nantes que la chanteuse fait ses armes tout en développant son style ouvert autour du rap, de la techno et aussi du punk. Ce premier disque, Belize Don't Cry, parle de l'artiste ronde, noire et féministe qu'elle est. Il évoque aussi l'amour, sa famille et surtout son histoire, celle d'une jeune femme africaine qui se dresse contre la bêtise misogyne et le racisme. Comme ici sur ce titre bien colérique à l'énergie folle.
En fait, j'ai juste une question à te poser.
Oui, mon petit amour.
Pourquoi mon appui souvent dans ta bouche que la tête de ton mec?
De cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Corot, Arthur Bon et Caristan Isseri. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis. Dans deux minutes, selon votre zone d'écoute, Nemo en piste, c'est le journal de Haïti et des Amériques. 30 minutes d'infos en full day ou en langue portugaise. À demain.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix. Pascal Paradou.
Il est médecin, elle est prof, il forme un couple moderne, mais tout va voler en éclats quand la tradition change le cours des choses. Il est désigné comme chef coutumier. Dans le harem du roi, Djaïli Amadou Amal raconte et dénonce encore et toujours la polygamie imposée aux femmes de son pays.
De vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde. Demain, reportage au SAMU Social de Paris, créé il y a tout juste 30 ans pour lutter contre la grande exclusion. Mercredi, l'éducation thérapeutique du patient. Pourquoi est-elle particulièrement recommandée en cas de diagnostic de maladie chronique ?
Priorité santé
avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Cette semaine, RFI vous invite tous les jours au concert.
Vivez ou revivez les meilleurs moments des concerts enregistrés en 2024 par RFI. Retrouvez ce lundi la diva Angélique Kidjo, mardi le rappeur français Luigi, mercredi Fally Ipupa, l'aigle du Congo, jeudi Jessie B, la lauréate du dernier prix découverte RFI, et vendredi Sofiane Saïdi et son Rail 2.0.
C'est à 20h10 TU sur l'antenne, sur notre site internet et sur la chaîne YouTube de RFI Musique.